Chapitre 3. Un quart d'heure après l'appel téléphonique de Blue Winkle, le docteur Coleman arriva dans un état d'agitation véhémente qui ne se donnait pas la peine de dissimuler. Il amenait le géant David et une Miss Maflu, aux joues roseilles, qui à chaque sourire montrait des fossettes assez profondes pour y fourrer des billes. « Par Dieu, le général Kitchener !» s'exclama-t-il. « Vous ne m'avez pas mystifié ? La jeune lady est bien vivante ?»«
Elle est vivante, » répondit James.
« David !» cria le neurologiste. « Oh, il y a de quoi rendre malade de joie tous les occultistes de l'Empire !»« Mais je croirai rien jusqu'à ce que je l'ai vue. Est-elle faible » ajouta-t-il en s'adressant à James. Le jeune homme eut un geste évasif. « Elle doit être plus faible qu'une mouche en novembre, » affirma Coleman. « Et vous voyez, j'ai apporté les provisions. » Il montrait David et surtout la demoiselle Maflu. « Un vrai petit tonneau de sang, » grommela-t-il. « Il m'a paru hier que notre intéressante malade montrait un peu de répugnance à s'abreuver chez notre ami David. » De la pudeur, sans doute préférera-t-elle un liquide féminin. Ben, j'avoue, elle n'y regardera pas quelques rasades.
Je ne crois pas qu'Evelyne en ait besoin, fit James avec contrainte.
Percy lui jeta un coup d'œil soupçonneux. Vous n'avez pas pris les devants, s'exclama-t-il d'un ton de reproche. Oh, « Je l'aurais fait si cela avait été utile, mais... »« Bon, bon, ricana Coleman, nous allons tirer ça au clair. » Il avait froncé les sourcils, mais dès qu'il vit Evelyne, son visage s'épanouit. « Bonjour, mon joyeux phénomène, ma délicieuse anomalie, » dit-il, « que votre cœur soit béni. » Il s'approcha de l'air d'un pêcheur qui craint de voir s'échapper quelques poissons extraordinaires, et il tâta doucement le poignet de la jeune femme. « 76 !» s'exclama-t-il après un silence. « Mais un pouls aussi régulier et aussi sain que mon chronomètre !» Les battements du cœur et le souffle ne cessèrent pas moins réguliers. Percy le constatait avec un mélange de satisfaction et d'inquiétude. « Elle est folle. Elle est absolument normale ce matin. Et puis ce teint, mais où a-t-elle chipé ce teint ?» Peu à peu, son visage se renfrognait. Il se renfrogna davantage quand il eut terminé l'examen. « C'est stupide, on dirait la première venue. » En tout cas, remarqua David, elle a l'air diablement affaiblie. Cette observation fit reparaître un sourire d'espoir sur les lèvres de Coleman. C'est juste, dit-il en se frictionnant les paumes. Oh, il est même grand temps de lui rendre des forces. Il se pencha d'un air aimable. Préférez-vous David ou bien Annie ? Une vive rougeur couvrit les joues d'Evelyne. Mais ni l'un ni l'autre, chuchota-t-elle. « Ah, ni l'un ni l'autre, vous perdez la tête !» se fâcha Coleman. « Je vous dis que vous avez besoin de vous restaurer. »« Annie, ma bonne fille, apportez-nous votre bras. » Annie produisit un bras rond, dodu et rose. « Frais comme une source et sain comme l'air des Highlands !» dit Percy d'une voix insinuante. « Ha ha, vous allez vous en donner des forces !» Miss Evelyne détournait la tête. « Elle ne peut plus !» intervint James, qui, afin d'affermir encore ses convictions, avait assisté à la scène sans rien dire. « Comment elle ne peut plus ?» réclama le neurologiste, dont le visage devint pourpre. « Est-ce que vous vous moquez de Percy Coleman ? Est-ce que je peux répondre de sa vie si elle persiste dans son absurde refus ?» Il y eut un silence. Coleman se promenait de long en large, les yeux phosphorescents.
James attendait avec le désir d'une solution définitive, tandis que David et Annie gardaient l'attitude ruminante des deux jeunes anglo-saxons au nerf lourd. Après une minute de promenade, Percy reprit son empire sur soi-même. « Madame, dit-il avec autant de douceur qu'il en put mettre dans une voix naturellement rude, ce que je vous demande est indispensable. Avant de prescrire des remèdes et un régime, il faut que je sache où vous en êtes. Vous devez le comprendre, je suis sûr que vous allez obéir. » Un petit frisson secoua les épaules d'Evelyne. Puis elle se tourna avec un air de résignation, fit signe à Annie d'approcher et appliqua ses lèvres sur le bras rose. « Voilà une bonne créature !» proféra Percy avec attendrissement. Quand Annie retira son bras, on y voyait une marque rougeâtre, mais ni l'examen de cette marque, ni l'examen de la bouche d'Evelyne ne révélèrent la moindre trace de sang. La déception de Coleman fut terrible. Il regardait alternativement James et Evelyne comme il aurait regardé un couple d'escrocs ou de faussaires. Il finit par dire, suffoqué, « Alors il n'y a plus rien ? Alors elle n'est pas plus malade que David, ni plus anormale qu'Annie ? Et c'est pour ça que j'ai fait faux bond à la duchesse de Marshall et à Lord Fathead. C'est dégoûtant, mais c'est sinistre, les goodbye. » Peu s'en fallut qu'il ne fît claquer les portes. À peine était-il sorti que la servante vint annoncer Mistress Grovesdale. Cette excellente créature entra avec une impétuosité que contrariait sa structure volumineuse et se jeta au cou d'Evelyne, tandis que James se retirait discrètement. Il suffisait de voir pendant 5 minutes Mrs. Gordvedale et de lui entendre préférer quelques phrases pour concevoir l'innocence de son âme. Evelyne lui tendit son étreinte avec ferveur et l'embrassa tendrement, mais elle comprit vite qu'il était impossible de lui faire la moindre confidence. « Chérie !» cria Mrs. Gordvedale d'une voix haletante. Pauvre petite chose, ma pâquerette, my love, vous n'êtes pas malade? Un peu indisposé seulement. Et père? Oh, père est à Liverpool, ma tourterelle, pour une affaire de nickel. Il ne reviendra pas avant une semaine. Des paroles sans nombre jaillirent des lèvres de la vieille dame, des propos anglais, plus ternes, plus insipides, plus incohérents, que les propos d'un botocudo. Evelyne les écoutait comme on écoute les couics d'un moineau. Elle lui rappelait l'immense et délicieuse simplicité de l'enfance, mais elle la confirmait dans l'idée de garder pour elle son secret redoutable. Pensive, elle laissait déferler la voix maternelle. Elle pouvait répondre au petit bonheur sans avoir à craindre de quiproquo. D'évidence, James avait raison. Tous ceux à qui elle confierait son aventure la croiraient démente. On est toujours seul en ce monde, mais pour avoir touché à l'au-delà, elle n'était plus encore que les autres. Blue Winkle seul était capable de la comprendre, et si peu. Elle soupira, tandis que Mistress Grovesdale lui faisait boire une tasse de beef tea apportée par la servante. Puis elle tomba dans une rêverie mélancolique. Que faire? Quelle serait sa destinée? Tout à la fois, elle était une jeune fille et une jeune femme. Une partie de son être avait incontestablement appartenu à Blue Winkle. Cette partie conservait des souvenirs qui faisaient tressaillir Evelyne et qui la révoltaient. Son mariage lui apparaissait comme une violence exercée sur sa personne pendant un profond sommeil. Et malgré tout, James n'était pas coupable. Elle lui en voulait, cependant. Elle était saisie de honte à la pensée de cet étranger qui la connaissait si intimement et qui ne la connaissait pas du tout. À plusieurs reprises, elle fut sur le point de supplier Mistress Lovedale de la ramener au home. Chaque fois, elle reculait devant l'idée de fournir des explications à l'excellente créature. Elle aurait pu mentir, mais le mensonge la dégoûtait. Elle laissa finalement partir sa mère sans avoir pris une décision, puis elle se fit vêtir par la femme de chambre et étendue sur une chaise longue, elle attendit James. Lorsqu'il se montra, le trouble d'Evelyn s'accrut jusqu'à devenir intolérable. Lui-même était très gêné. Tous deux se sentaient beaucoup plus séparés encore qu'ils ne l'étaient avant la visite de Mistress Grovedale. Mais James ne retrouvait pas la crainte et l'inquiétude que lui inspirait l'autre. Celle-ci lui apparaissait plus fraîche, plus charmante, virginale, et il subissait une inclination passionnée. Elle, d'autant plus que l'aspect physique de James était selon son goût, se sentait humiliée, ulcérée, pleine de rancune. « Et c'est atroce, » fit-elle par dire. « Il est impossible, totalement impossible que nous vivions ensemble. J'en deviendrais folle. » James l'écoutait avec mélancolie. Il la comprenait, il sentait combien la situation devait lui apparaître « shocking ». Il avait une honte bizarre de lui-même, comme s'il s'était conduit déloyalement avec elle. Tout cela ne faisait qu'accroître son goût pour Evelyne. Ce jeune homme intelligent, mais simple à la manière du gros tas britannique, éprouvait des sentiments plus complexes qu'un Parisien averti par des fréquentations raffinées et par des lectures trop subtiles. C'était la faute des circonstances. Rien ne pouvait faire qu'il n'eût adoré ce corps charmant. Rien ne pouvait faire que la séduction de ce corps ne fût rajeunie et, tentation innocente, mais équivoque, invincible aussi, c'était un grand attrait qu'Evelyne fit ensemble sa femme et une autre femme. On a beau être anglo-saxon jusqu'au bout des phalanges, on garde tout de même quelques traces de l'antique instinct des patriarches. Enfin, songeait-il, c'est bien elle que j'ai cru épouser. Elle m'appartient aussi honnêtement, pour le moins que ma fortune. Il était trop gentleman pour faire état de ses droits. Il répondit avec déférence. « Vous êtes libre, je suis incapable d'exercer contre vous la moindre contrainte. Mais d'après tout, vous ignorez ce que vous penserez et ce que vous sentirez demain. » « Je respecte votre première impression, qui est noble, mais il n'est pas possible de supprimer les événements. Rien ne prouve que la situation ne finira pas par s'imposer à vous. Je suis tout de même votre mari, et de toutes les solutions, la plus honorable est que... » Elle l'interrompit d'un geste fiévreux. « Mais ce mariage est nul. Même si je vous aimais... Mais je crois que c'est désormais impossible. Jamais je ne vivrai auprès de vous, à moins d'un mariage nouveau. » Écoutez, reprit-il, il y a bien des manières d'attendre et d'arranger les choses. Puisque vous ne voulez pas habiter avec moi, vous retournerez chez vos parents, vous habiterez seul notre home. Je trouverai les prétextes nécessaires. Je ferai des voyages. Mais ce que je vous demande humblement, c'est de me recevoir quelquefois en compagnie des vôtres, si vous voulez, ou bien de me rencontrer dans des endroits publics. J'ai absolument besoin d'essayer ma chance. « Et pourquoi voulez-vous essayer votre chance ?» demanda-t-elle amèrement. « Parce que je vous aime. »« Ah, vous n'aimiez pas l'autre ?»
Je veux être sincère, je l'aimais, mais comprenez-moi bien, je l'aimais comme on aime presque tous les gens, sans bien la connaître, et avec une certaine horreur, très naturelle, n'est-ce pas? Oui, avoua-t-elle, très naturelle, seulement, vous me connaissez encore bien moins. Eh bien, non, je ne crois pas. Les détails de votre caractère m'échappent certainement. Mais je sens votre fierté, votre pureté, votre horreur du mensonge. C'est le principal d'une nature morale. Enfin, quelque chose veut, depuis que les hommes existent, que nous aimions aussi nos semblables pour leur nature physique. Cela vient de plus loin et de plus haut que nous. C'est la loi. Nous devons l'accepter. Cette argumentation s'adaptait trop à la mentalité anglaise d'Evelyne pour qu'elle y trouvât à redire. Elle baissa la tête, elle répéta d'un air rêveur: oui, nous devons l'accepter. Elle reprit: bon, soit, je ne puis pas refuser de vous revoir quelquefois. Je le ferai par devoir, à condition que cela ne dure pas trop longtemps. Vous fixerez vous-même le délai. 3 mois vous suffisent-ils? Oui, soupira-t-il, 3 mois suffiront. Un nouveau silence. Blue-Winkle s'était levé et regardait par la fenêtre. Il avait le cœur gros. Plus que tout, l'idée qu'Evelyne quitterait le home lui était insupportable. Il finit par dire: vous êtes encore trop faible pour vous déplacer. Voici ce que je propose. Je partirai ce soir même en voyage. La femme de chambre et la cuisinière sont d'excellentes créatures, sur la bonne conduite desquelles vous pouvez faire fond. Votre famille viendra vous voir aussi souvent que vous le désirez. Ainsi, tout sera correct et confortable. C'est pourtant un gentleman, songea Evelyne. Et elle lui tendit la main. Mais dès qu'elle toucha les doigts de James, elle devint pourpre. La même honte et la même rancune qu'elle avait si violemment ressentie naguère bouillonnèrent dans sa poitrine. La petite main se retira vivement. James sortit de la chambre, pensif et misérable. Il fit ses préparatifs de départ et ne revit pas Evelyne de toute la journée. Ce furent des heures lugubres. Il était en proie à ce chagrin immobile, si l'on ose dire, qui ravage si profondément les hommes du Nord. En même temps, il souffrait de ses pensées. Elles eussent été anormales chez n'importe quel homme. Elles étaient intolérables pour un jeune anglo-saxon qui a toujours vécu sous le régime d'une discipline morale, où l'imprévu même ne suscite guère de contradictions. Il s'effrayait des aspects bizarres que prenait chacun de ses regrets ou de ses désirs et des nuances dont se revêtaient ses moindres actes. Tout cela s'ajoutait au regret de quitter Evelyne et lui donner la fièvre. Il avait par moments envie de partir pour l'autre bout du monde, de s'enfoncer dans les déserts blancs du pôle sud ou dans les déserts sableux de l'Australie torride. Après le crépuscule, il fit venir une voiture et alla faire ses adieux à sa compagne. Il la trouva étendue sur une chaise longue, un peu faible encore, mais si fraîche, si éclairante, avec de si beaux yeux d'enfant, qu'il se sentait chavirer d'amour. Farewell, dit-il, soyez heureuse. Comment pourrais-je l'être? Fit-elle à mi-voix. Il avait froid au cœur. Il ne pouvait s'empêcher de trouver injuste que cette créature qui était si fortement de sa race ne l'aimât point alors que l'autre, venu des gouffres de l'au-delà, l'avait aimée. Quand il fut dans le hackney, il se pencha à la portière. Evelyne était là, derrière ses vitres claires. Si elle pouvait seulement soulever le rideau. Il l'espéra,
Il darda vers la croisée un long regard d'appel, mais rien ne bougea. Le Hackney s'enfonça dans la brume. James fit un tour sur le continent. Il visita docilement les musées, les monuments, les théâtres, les paysages que lui imposait son guide. Il consignait sur un carnet de route la valeur marchande des tableaux célèbres, l'âge des églises, la hauteur des tours, la largeur et la profondeur des fleuves, le tarif des voitures, la population des villes et l'importance des ports. Ses travaux ne le distrayaient guère. Il songeait à Evelyn Grovedale pendant que les gardiens des tombeaux ou des temples lui donnaient des renseignements précis sur les héros, les saints, les reliques et l'outillage des cultes. Il y songeait encore pendant que les apothicaires de Poquelin agitaient leurs vastes seringues, que Phèdre aguichait le fils de Thésée et qu'un signe traînait l'embarcation du mystérieux Lohengrin. Mais le Champagne ne parvenait qu'à exalter sa peine. Il termina son voyage à Florence, d'où il revint directement à Londres, aussi mélancolique et plus amoureux qu'il n'en était parti. Il avait annoncé son retour et l'heure de son arrivée. Un joli brouillard jaune ouatait la ville, à travers lequel on voyait un petit soleil rouge, semblable à un pain à cacheter. Evelyn se trouvait assise auprès d'un feu de Wealth End, charbon bitumineux, lourd et chaud, qui donne des flammes longues, propres à faire naître la rêverie. Elle rêvait, effectivement, pleine de sa jeune grâce triste, tout illuminée de sa grande chevelure, où se mêlaient les nuances des pailles de froment et d'avoine. Elle semblait moins nerveuse et beaucoup plus résignée. La présence de James ne parut pas autrement lui déplaire. Dans le fait, elle la distrayait presque. Aussi parlèrent-ils, avec monotonie et douceur, de ces choses innocentes qui entretiennent les causeries britanniques. Mais Evelyn demeurait lointaine. Au moment où il allait se retirer, elle dit « Je ne dois pourtant pas abuser de votre bonté. Je compte retourner ce soir chez mes parents. »« Oh, cela me ferait beaucoup de peine, » soupira Blouwinkle. « Et que leur diriez-vous ? Il vaudrait mieux que j'habite le premier étage et que vous demeuriez au rez-de-chaussée. Vous ne me verriez pas, à part quelques minutes chaque jour. Je prétexterai des affaires et j'irai prendre mes repas en ville. »« Mais cela vous gênerait terriblement, » dit-elle. « Pas du tout. Ce qui nous gênerait l'un et l'autre, tant que nous n'aurons pas pris une résolution définitive, ce serait cette séparation, incompréhensible pour vos parents et pour tous. Je vous supplie de réfléchir au moins pendant quelques jours. » Elle savait qu'il avait raison. D'avance, elle redoutait les questions candides de sa mère et surtout le mécontentement de Mr. Grovedale, qui avait un sens aigu et presque tragique de sa respectabilité. « Bien, puisque vous le voulez et que cela vous dérange moins que mon départ, » dit-elle après avoir regardé pensivement les longues flammes des Wallsand, « je resterai ici quelque temps encore. » 15 jours coulèrent. Comme James se levait plus tôt qu'Evelyn, il semblait naturel qu'il prît solitairement le thé, les œufs, le bacon, les toasts et la marmelade d'orange du premier repas. Il lâchait et dînait dehors. Pour sauver les apparences, Evelyn lui accordait des entretiens qui se trouvèrent moins désagréables qu'elle ne l'avait appréhendé. Peu à peu, ils en revinrent à causer de leur incroyable aventure. Elle était à la vérité la cause de leur séparation, mais elle était aussi un secret passionnant, quelque chose qui rendait leur destinée unique parmi les destinées humaines et les faisait en quelque sorte complices. Evelyne sentait bien qu'elle aurait pu s'attacher à ce grand garçon candide, généreux et tendre, mais chaque fois qu'elle songeait à la possibilité d'être sa femme, elle rougissait à la manière de la comtesse Aimée de Spency, dont Barbel Revilly dit que son front, ses joues, son cou, jusqu'à la raie nacrée de ses étincelants cheveux d'or, tout s'infusait, s'inondait d'un vermillon de flammes. Evelyne avait maintenant complètement repris ses forces. Elle allait régulièrement voir la bonne Mistress Glovedale, le jeune Harriet et le jeune Jack. Jamais sa santé n'avait paru plus solide. Son teint pouvait défier la fraîcheur et l'éclat des teints de babies, de ces babies éblouissants qui se roulent sur l'herbe émeraudée de Hyde Park ou dans les squares verdoyants de West End. Et brusquement, il lui vint des malaises. C'était le plus souvent au matin, mais parfois aussi en plein jour, au milieu d'une promenade, d'une lecture ou d'une visite. Un après-midi, Mrs. Gordale, la voyant devenir toute pâle et chancelée, s'agita. « Vous n'êtes pas bien, pauvre petite chose !» s'écria-t-elle. « Vous devenez pâle comme cette soucoupe. » Elle criait emphatiquement avec des gestes de moulin à vent. Evelyne avoua ses malaises. Mrs. Grovedale, en l'écoutant, passa graduellement de la crainte à l'espérance. « Darling, fit-elle d'un air inspiré, je crois qu'il est temps que vous voyiez un médecin, ou peut-être préféreriez-vous une doctoresse. » Elle souriait presque. Elle avait un air tendre, mystérieux et burlesque. Voyant qu'Éoline ne comprenait point, elle haussa les épaules. « Mais savez-vous, dit-elle, oh, nous irons tout de suite, nous irons chez Mistress Tinerumph, c'est à l'autre bout du square. Mistress Tinerumph connaît les mots des ladies. Et oh, oh Lord, comme je voudrais. » Elle ne dit pas ce qu'elle voudrait et attira Evelyne sous les rouvres et les hêtres rouges du square jusqu'à la demeure de Mistress Tinerumph. Cette dame était chez elle. Elle montra des cheveux pareils aux poils du renard, un museau de hamster, un sourire affable. Elle interpréta instantanément la télégraphie de Mistress Grovedale et interrogea Evelyne, qui, peu à peu, était devenue fort pâle. Un examen fut jugé nécessaire. Mistress Tinerumph la pratiqua avec minutie, puis elle secoua la tête d'un air de sibylle en proférant « On ne peut pas être sûr, mistress, mais on ne peut pas encore, mais je jurerai. » Elle baissa la voix pour donner son pronostic. Evelyne se mit à trembler de tous ses membres. Quand James rentra le soir, il alla faire sa visite accoutumée. Il vit la jeune femme affaissée dans un fauteuil, le visage brouillé de larmes et les yeux pleins d'un désespoir inexprimable. « Qu'avez-vous ? » demanda-t-il avec sollicitude. « Oh, c'est si horrible, gémit-elle, si horrible !» Elle éclatait en sanglots, la face appuyée sur son bras. Il demeura là, inquiet, étonné, curieux. Comme elle ne répondait pas à ses questions, il prit le parti d'attendre. Finalement, les sanglots s'apaisèrent. Il y eut un long silence. On n'entendait que le murmure du feu, le son étouffé d'une cloche, le roulement d'un cab dans la rue voisine. Blue Winkle contemplait ce corps flexible, à demi renversé, les ondes éparses de sa chevelure et le cou blanc qu'agitait par intervalles un tressaillement. « Eh bien, reprit-il avec douceur. » Elle releva la tête. Sa bouche était farouche, sa face hagarde, ses grands yeux pleins d'une flamme de fièvre et de terreur. Tout à coup, elle dit, d'une voix basse et concentrée, « J'ai peur. Je vais avoir un enfant. »
Comme il se penchait, saisi d'une joie obscure, elle cria dans un délire d'épouvante,
« Un enfant d'une autre femme ? Un enfant d'un autre monde ?»
Pendant 3 mois, Evelyne mena une existence affreuse. Elle avait le sentiment continu d'être la proie de toute force mystérieuse et ennemie. Elle connaissait les affres des tristes créatures qui, aux siècles abolis, se croyaient possédées par le démon. Plus seule encore que naguère, son mal semblait sans remède, et ceux qu'elle aimait le plus, sa mère même, était totalement incapable de comprendre sa peine. Il n'y avait que ce James. Pendant plusieurs semaines, sa présence fut insupportable à la jeune femme. Elle ne lui tendait même plus la main. Elle l'écoutait en silence, prostrée. Elle lui disait à peine une parole, à l'arrivée et au départ. Et son aversion croissait les jours où elle avait un sentiment plus aigu de sa propre injustice. Après le 3e mois, l'affliction et les dégoûts persistèrent, mais il s'y mêla de la résignation. Evelyne céda alors à ce besoin de la confidence qui est un trait dominant et irrésistible de l'être social. Elle expliquait les nuances de son supplice, elle essayait surtout de faire comprendre cette lutte qui se livrait en elle et où elle discernait si nettement une influence extraterrestre. « Oh !» s'écriait-elle un soir de février, tandis que la neige s'épaississait sur Londres. « Je sens si bien que je suis une condamnée et une esclave. » Il l'écoutait avec une patience qui ne se démentait jamais. Et tout en regardant par le rideau écarté tomber les prunelles argentines, il se mit à dire « Mais c'est pourtant votre enfant aussi !»«
Non, non, » fit-elle avec véhémence, « ce n'est pas mon enfant !»«
Réfléchissez, » reprit-il. Peut-être ne l'était-il pas d'abord, ou très peu, je ne sais pas, mais il l'est chaque jour davantage. Depuis bien des mois, n'est-il pas nourri de votre sang? N'est-ce pas votre force qui le soutient? N'est-ce pas votre vie qui le fait vivre? Pensez à tout ce qu'il aura reçu de vous, lorsqu'enfin il verra le jour. » Ces paroles la frappèrent. Elle demeura quelque temps rêveuse, puis elle objecta, mais avec moins de dégoût et d'amertume. « Mais est-ce que ce n'est pas pire ?»«
Peut-être, si c'était un être abominable. Mais pourquoi serait-il abominable ?»«
Parce que l'autre l'était. »«
Ah non !» répondit énergiquement le jeune homme. « Elle était étrange, sans doute, mais je peux vous assurer, et en consultant les souvenirs qu'elle a laissés dans notre cerveau, vous-même, vous pouvez vous convaincre que c'était une bonne créature, digne d'être plainte et même aimée. »
« C'est vrai, » murmura Evelyne.
Pendant quelques minutes, elle se sentit presque rassurée. Mais tout à coup, elle blêmit, ses lèvres frémirent.
« Et si cet enfant est un vampire ? » cria-t-elle.
James, à son tour, devint pâle, car à mesure que le temps avançait, il se sentait envahir par la tendresse paternelle.
« Ce n'est pas probable, » riposta-t-il. Depuis ce soir, Evelyne ne lui montra plus aucune aversion. Elle le recevait amicalement, leur causerie se prolongeait parfois pendant plus d'une heure. L'hiver coula, le printemps envoya ses petites fées tisser les feuilles des arbres et les corolles des fleurs, les tempêtes d'équinoxe rugirent sur les cheminées, puis la date approcha qui devait marquer pour Evelyne une double délivrance. Ce fut à la fin de mai.
Les crépuscules se prolongeaient interminablement dans le firmament londonien. Big Ben, au haut du Parlement, sonnait à peine deux fois l'heure entre les dernières lueurs de la brume et les argentures de l'aube. Evelyn connut une nuit effroyable où tout son être craqua dans les tortures. Au matin, un petit mâle poussa sa première plainte. Seulement, au lieu d'être rouge et pareil à une grenouille comme ses congénères, il était fantastiquement pâle et les traits déjà amenuisés. « What a love !» cria à tout hasard Mistress Groveldale. « Est-elle-même votre portrait, darling ?» C'était exact, mais Evelyn ne voyait pas la forme du visage. Elle était terrorisée par cette pâleur qui n'était vraiment pas de ce monde. « Un fantôme !» chuchota-t-elle. Et elle n'osait pas prendre le nouveau-né dans ses bras. Cependant, sa fatigue était si grande et elle ressentait un tel sentiment de délivrance qu'elle sombra dans le sommeil. Ce fut un sommeil très long, à peine entrecoupé d'un court réveil vers le soir. Le lendemain, quand elle s'éveilla, elle aperçut une jeune femme qui venait de saisir l'enfant et lui offrait le sein. « Mrs. Tinroff ne veut pas que vous nourrissiez. » « Vous avez besoin de réparer vos forces, » dit Mrs. Groveldale. Evelyn ne répondit pas, hypnotisée par le spectacle de la petite bouche qui avait saisi l'aréole bise de la nourrice. Des minutes frissonnantes s'écoulèrent. On voyait trembloter le menu visage. L'accouchée, à mesure, se sentait prise d'une joie subtile et profonde. À la fin, elle dit « Donnez-le-moi ». La nourrice tendit le nouveau-né. Evelyn ne cessait de regarder les petites lèvres. Elle avait un grand sourire, son cœur palpitait de bonheur. Les lèvres étaient pleines de lait. Depuis la veille, James attendait avec inquiétude. Lorsque Mistress Groveldale lui avait montré le bébé, un grand frémissement l'avait secoué. Il reconnaissait trop bien cette pâleur prodigieuse. Il retrouvait devant la frêle créature la crainte et l'horreur qui l'avaient agité avant le retour d'Evelyn. Il passa une journée chagrine et une nuit misérable. Son cœur était plein de tendresse pour l'enfant, comme il était plein d'amour pour la jeune mère. C'était l'heure de la destinée. Si le pauvre petit ne pouvait se nourrir que de sang, comment le mener à travers la vie? Sans doute il faudrait se résigner à perdre définitivement Evelyn. Il songeait à ces choses lorsque la femme de chambre vint desservir son breakfast auquel il n'avait pas touché et lui dit « Madame désire parler à monsieur ». Il n'osa pas descendre tout de suite. Il était comme un joueur qui hésite avant de risquer sa mise. Quand il pénétra dans la chambre et qu'il aperçut le petit dans les bras d'Evelyn, il respira plus librement. Le visage de la jeune femme était paisible, ses yeux clairs et sans fièvre. Quand James fut proche, elle chuchota « C'est un enfant comme un autre. » D'un geste presque imperceptible, elle montrait la nourrice qui se tenait au fond de la chambre, et pour la première fois, elle sentit une pression franche répondre à sa pression de main. Des jours très doux coulèrent. Dans la grande lumière de juin, au parfum des pollens et des verdures qui montaient du jardin par les larges baies de la chambre, il sentait peu à peu s'éloigner l'aventure surnaturelle. La vie terrestre les ressaisissait et les consolait. Le mauvais passé devenait un songe. Un après-midi qu'ils avaient causé plus longtemps que d'habitude, ils furent surpris par le crépuscule. Une fournaise s'allumait là-bas parmi les arbres. Des peuplades d'oisillons, filant à travers les échancrures des demeures et des murailles, s'abattaient sur les branches, parmi les ramilles, sur la saillie des toits, avec des sifflements de bonheur. James avait saisi la main d'Evelyne, et comme elle ne la retirait pas, il dit à voix basse: Et pourquoi ne seriez-vous pas ma compagne? Elle ne répondit pas tout de suite, songeuse. Une énergie simple et naïve l'animait. Elle savait qu'elle pourrait vivre de longs jours avec ce grand garçon tendre, mais elle sentit des obstacles qui s'élevaient en elle, et elle soupira. Je ne puis pas vous répondre encore. Ils atteignirent le mois de juin. À part sa fantastique pâleur, l'enfant demeurait normal. La nourrice, qui l'avait d'abord presque effrayé, le prenait en affection. Il criait rarement, il avait de grands yeux glauques, un peu plats, qui semblaient déjà reconnaître les choses et les êtres. James l'adorait, et Evelyne, malgré des retours de crainte, s'attachait à sa singulière petite personne. Il n'est pourtant pas comme les autres enfants, disait-elle parfois à Blue-Winkle. Il affirmait le contraire, et, bien anglo-saxon en ceci, il se forçait à le croire par devoir paternel, par amour du conformisme, et peut-être aussi parce qu'il sentait que sa chance d'être aimé par Evelyne en dépendait. Leur intimité se consolidait. Un matin qu'il lui avait dit des paroles tendres, Evelyne répondit: Mais vous savez que je ne me considère pas comme votre femme. Comment faire pour nous marier? Il tâcha de la raisonner. Il lui montra qu'ils étaient mariés devant les hommes et que par suite, il suffisait de leur consentement mutuel pour que ce mariage devînt réel et irréprochable. Elle ne se rendit pas, elle avait maladivement besoin d'une sanction. James se tortura l'esprit pour résoudre ce problème bizarre et irritant. Il songea d'abord à un divorce suivi d'un nouveau mariage. Mais cette solution exigerait des mensonges auxquels Evelyne ne se serait jamais résolue et qui répugnaient aussi au jeune homme. À force de réfléchir, il lui vint une idée. Ne suffirait-il pas, dit-il, qu'un prêtre confirme notre mariage? Ah oui, répondit-elle, cela suffirait. Alors James alla trouver le vicaire de Saint-Georges, vis-à-vis duquel il se résigna à farder la vérité. Homme peu subtil, le vicaire comprit qu'il s'agissait d'une femme excentrique et qui avait la maladie du scrupule. C'était un clergyman surnourri que les besoins temporels du culte inclinaient à l'indulgence. Nous ne devons pas juger légèrement le prochain, dit-il. Le scrupule est propre aux âmes d'élite. Ce que vous me demandez n'est pas positivement prévu, mais ce n'est pas défendu. Les frais, naturellement. Il toussa en épiant Blue-Winkle. Bon, les frais ne sont pas une objection, répondit paisiblement le jeune homme. Et cette riposte ayant une vertu décisive, Evelyn et Blue-Winkle parurent devant le vicaire de Saint-Georges, qui leur délivra un joli petit sermon sur les devoirs du mariage et conclut: Evelyn Groundhill a déjà été donnée à cet homme dans cette même église. Jean Blue-Winkle a pris Evelyn Groveneel sous sa garde. Ils se sont promis d'être l'un à l'autre, pour le mieux et pour le pire, et de s'aimer dans la richesse et dans la pauvreté. Je rappelle à la femme qu'elle doit obéissance à son mari et à l'homme qu'il doit protection à son épouse. La bénédiction du Seigneur sera sur leur mariage. Ensuite de quoi, James versa 3 livres sterling, 7 shillings et 6 pence, dans la dextre du sieur Blackfoot, droguiste et sacristain. La beauté du temps les entraîna en voiture jusqu'à Epping Forest, où la vieille Angleterre conserve des chênes immenses et des arbres fabuleux. Ils rôdèrent sous les pesantes ramures, s'assirent sur la mousse hospitalière, commencèrent le roast beef, le pudding et l'ale dans une auberge des vieux temps, et le soir, tournés vers le couchant, devant les nues géantes où étincelaient les fables, les légendes et les chimères, elle fut la Vierge qui laisse flotter sa chevelure sur l'épaule du bien-aimé, et il fut le conquérant qui emporte la toison vermeille. Il y eut des matins, il y eut des soirs. Le passé était derrière eux comme un rêve. James se demandait si tout cela, en vérité, n'avait pas été un rêve. Un matin qu'il y songeait, Evelyne encore endormie, il vit la nourrice sur le perron du jardin d'arrière. Elle berçait doucement le jeune Walter, dont les yeux glauques regardaient les arbres d'un air terriblement méditatif. James eut un élan de tendresse vers le petit être et le prit dans ses bras. Il le promena à travers la pelouse, et peu à peu le bébé s'était mis à sourire, d'un sourire qui étonnait James. « Il est certain, songea le père, que ce boy ne ressemble à aucun autre enfant. » Il eut un tressaillement d'inquiétude. Les jours d'antan revinrent. Il vit la première Evelyne et son visage livide. Il revécut cette nuit affolante où il avait découvert le secret. Puis encore, il se retrouva auprès de la moribonde. Il veilla à l'étrange cadavre. Mais se peut-il que Walter n'ait hérité d'elle que sa pâleur? Il s'était arrêté sous un troène. Ses yeux rencontrèrent le regard attentif du bébé. Et l'idée lui venant de tenter une épreuve, il introduisit l'extrémité de son annulaire dans la bouche rose. Tout de suite, les lèvres se refermèrent. James éprouva, quoique faiblement, une sensation qu'il connaissait bien. Il attendit 2 minutes, et quand il retira l'annulaire, il y avait de très fines gouttelettes roses. « C'est un vampire !» chuchota-t-il. Et il tremblait d'épouvante. Il ne se trompait pas. Le jeune Walter Bluewinkle est effectivement un vampire. Et pendant longtemps, son père ne l'avoua à personne, pas même à Evelyne. Mais c'est un vampire inoffensif. Il jouit-elle seulement du pouvoir de soutirer le sang à travers les pores de la peau sans que celle-ci éprouve aucun dommage. Il a aussi une intelligence très précoce et tournée vers les mystères de l'au-delà. Percy Coleman, à qui, lors d'une maladie du petit, James s'est enfin cru obligé à faire des confidences, ne donnerait pas à Walter pour une église en or. On dit que ce neurologiste doit au jeune vampire une découverte prodigieuse qu'il va prochainement faire connaître à la vieille Angleterre et qui bouleversera les sciences biologiques plus profondément encore que la radioactivité ne bouleversa les sciences physico-chimiques.